Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Claire Lejeune, ancienne co-secrétaire fédérale des jeunes écologistes, membre d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Claire Lejeune, d'abord une question d'actualité. Face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement a annoncé une indemnité de 100 euros pour les personnes gagnant moins de 2000 euros par mois. D'un point de vue écologique, que pensez-vous de cette mesure ?
Je pense qu'en fait, cette mesure, elle vient en réaction à une situation où le gouvernement n'a pas du tout anticipé ni amené une vraie politique de transition énergétique. Du coup, on se retrouve un peu au pied du mur et ce chèque de 100 euros est vraiment un pansement qui vient recouvrir difficilement le manque d'investissement dans une réelle politique de transition énergétique. On est dans un moment où il ne s'agit pas de juste subir les variations d'un marché d'énergie qu'on ne contrôle pas parce qu'il a été largement libéralisé. On est dans un moment où il faut changer complètement la structure de notre production d'énergie et notre rapport même à l'énergie. Parce que là, pendant que le gouvernement agit en dernière minute en distribuant des chèques, qui ne sont d'ailleurs ni en nombre suffisant et qui posent des questions de justice sociale, pendant ce temps-là, on n'agit pas en fait sur à la fois la réduction de la consommation d'énergie qui va être centrale dans la transition, ni non plus sur la mutation du mix énergétique qui doit passer d'une situation où aujourd'hui on dépend à la fois du nucléaire et puis du gaz et des fossiles à une situation où on doit dépendre le plus possible d'énergies qui sont renouvelables et qui vont nous permettre d'un minimum faire face aux risques que pose le dérèglement climatique.
Claire Lejeune, de nombreux Français ne peuvent pas se passer de leur voiture, c'est vrai particulièrement en milieu rural. Si Yannick Jadot est élu président, est-ce qu'il faudra mettre en place une politique ambitieuse pour que tous les Français puissent avoir accès aux transports en commun ?
Alors oui, bien sûr, et je pense que ce qu'il faut commencer par dire, c'est que aujourd'hui, la raison pour laquelle un grand nombre de Français dépendent effectivement complètement de leur voiture, c'est qu'on a créé une société où il y a une dépendance de la voiture, c'est-à-dire que l'ensemble de notre aménagement territorial est conçu pour une situation où tout le monde a accès à une voiture individuelle. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, et c'est lié à la question précédente, c'est que on va avoir dans les années à venir des sérieux problèmes sur la question de l'énergie avec des tensions sociales très fortes que ça peut créer. On a l'exemple du mouvement des Gilets jaunes, il est parti de ça. Il est parti d'une question qui est de l'ordre de la précarité énergétique. Quand on ne peut pas faire son plein pour aller travailler, on est dans une situation de dépendance très forte du coup à la voiture et à l'énergie, et on est dans une situation de dépendance à sa voiture individuelle. Donc, il va falloir une politique d'innovation et d'investissement très forte pour sortir de ce modèle-là. Ça ne veut pas dire que si les écologistes arrivent au pouvoir, il y aura une interdiction totale des voitures généralisées. Ça veut dire que on va aller déjà vers l'interdiction des voitures thermiques à un horizon 2030. On va aller vers de l'innovation pour accélérer sur des modèles de voitures plus légers avec des modèles électriques qui permettent que la voiture soit moins nocive pour le climat. Et on va surtout faire évoluer notre rapport à la mobilité et aller vers une forme de sobriété énergétique, y compris sur la question des transports et des mobilités. Donc ça veut dire repenser aussi la distance entre le domicile et le travail. Et là, c'est une question d'aménagement territorial. Ça veut dire repenser l'usage de la voiture en développant le covoiturage, en développant les usages mis en commun de la flotte de voitures. Et ça veut dire, bien sûr, une politique d'investissement très forte dans les transports en commun, notamment en rouvrant les petites lignes, en rouvrant les gares, que pour le coup, le gouvernement Macron a contribué à fermer, en fait. Donc, on en revient aussi à des questions qu'on abordait avec votre première interrogation, c'est-à-dire que vraiment la réaction du gouvernement aujourd'hui Bon, d'une part, elle est électoraliste parce que c'est vraiment clairement un espèce de chèque cadeau pour essayer de faire croire que ce gouvernement aurait eu une action sur le pouvoir d'achat et une politique sociale, alors que la réalité de ce mandat, c'est une inaction dramatique sur l'ensemble des leviers qu'un gouvernement a aujourd'hui à sa disposition pour changer de modèle. Et c'est même pire que ça, c'est une action défavorable à cette transition écologique qui est absolument urgente, par la fermeture des petites lignes, par un manque d'investissement total dans les renouvelables et une fuite en avant sur le nucléaire qui pourtant coûte des milliards et des milliards et des milliards, des milliards qu'on pourrait être en train de mettre justement dans le développement des énergies renouvelables qui sont trois fois plus créatrices d'emplois aujourd'hui que les formes d'énergie desquelles on doit sortir.
Vous avez évoqué tout à l'heure, Claire Lejeune, l'expression de sobriété énergétique. Est-ce qu'il faudra songer aussi à revoir notre manière de consommer de l'énergie? Si vous prenez l'appartement d'un de nos auditeurs, toutes les pièces sont remplies d'appareils électriques, on manque parfois de prises électriques dans les appartements. Est-ce qu'il faut consommer moins d'électricité?
Oui, il va falloir travailler très fortement sur cette question de sobriété énergétique, et ça veut dire réduire notre consommation. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'est pas des questions de choix individuels et quotidiens. C'est aussi des changements collectifs qui s'est opéré. Là, on parlait un peu de l'usage de l'énergie au sein des foyers. Il y a une priorité absolue sur la question de la rénovation thermique. Et ça, c'est un serpent de mer. Je veux dire, les gouvernements précédents l'ont mis sur la table, puis ont fait un peu des plans d'investissement, mais sans que ça avance à la vitesse à laquelle il faudrait que ça avance réellement. Donc, si les écologistes arrivent au pouvoir, ce sera clairement un chantier absolument prioritaire, parce que là, on est sur une de ces nombreuses situations où les questions de justice sociale et d'écologie sont complètement imbriqués, parce que les passoires thermiques aujourd'hui, c'est principalement les classes populaires et les plus précaires qui subissent, qui habitent dans ces passoires thermiques et du coup qui subissent le surcoût aussi de l'inaction collective, de l'inaction de la puissance publique sur la question de la rénovation. Donc actuellement, je crois que c'est à peu près 2 milliards par an qui sont mis dans la rénovation thermique. Si les écologistes arrivent au pouvoir, on serait plutôt sur de l'ordre de 6 milliards par an, avec vraiment des objectifs très clairs et un suivi de comment on atteint ces objectifs. Donc arrêter de se poser des objectifs et de finalement se rendre compte au bout de quelques années qu'on n'a pas du tout réussi à les atteindre.
Claire Lejeune, Total est accusé d'avoir sciemment minimisé les dangers du réchauffement climatique. Pourquoi estimez-vous que cette compagnie doit répondre de ses actes aujourd'hui?
Alors déjà, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que Total est clairement une entreprise dont la raison d'être, c'est de faire du profit en extrayant, en vendant une énergie fossile. Donc c'est une entreprise qui fait du profit en contribuant activement au dérèglement bioclimatique. Et cela, c'est pas nouveau, c'est effectivement depuis des décennies. Donc, je veux dire, ça choque, parce qu'on vit clairement des personnes, et là, indépendamment de leur fonction dans leur entreprise, en fait, c'est des personnes qui ont eu les informations donc dans les années 70 et qui ont clairement fait le choix stratégique de balayer ça sous le tapis et même d'activement masquer en fait l'ampleur du problème qui se posait à nous pour pouvoir continuer leur fuite en avant et leur gain et ainsi faire accroître leurs profits. Donc ça choque, parce que ça nous paraît mais complètement ça nous paraît criminel, parce que là on se rend compte à quel point c'est l'avenir vraiment des générations, même plus futures, mais des générations actuelles, qui sérieusement mis en péril, et on sait maintenant la responsabilité de ces entreprises-là dans ce dérèglement climatique. Donc, je veux dire, oui, il va falloir, je pense que en fait, il y ait un regard sur la chaîne de responsabilité, et puis surtout, en fait, il va falloir que la puissance publique aussi réaffirme son pouvoir sur ces entreprises Et je ne pense pas que ça passe par des incitations ou comme semble penser le gouvernement actuel. Je pense qu'il va falloir légiférer, il va falloir imposer des choses à ces entreprises. Et dans l'histoire, en fait, on a été en capacité de le faire. Il y a toujours eu des moments dans l'histoire où quand on atteignait une situation de crise, la puissance publique a été en mesure d'imposer aux entreprises privées, d'imposer à l'industrie des directions qu'il fallait prendre pour l'intérêt général. Donc on est dans ce moment-là, on est dans ce moment où on est au pied du mur sur beaucoup, beaucoup de sujets. Là, il faut qu'on agisse le plus rapidement possible sur la transition écologique et on a en plus, et de manière liée, hein, une crise sociale qui va aller en s'amplifiant. Et on est dans ce moment où il faut absolument que la puissance publique reprenne la main sur certaines dimensions du privé. Parce que si on laisse juste les mécanismes du marché courir, on va droit au mur collectivement.
Alors le programme des Nations Unies pour l'environnement affirme que les pays signataires de l'accord de Paris de 2015 sont loin d'être sur la trajectoire des objectifs climatiques d'un réchauffement de la planète limité à 1,5 degré. Comment expliquez-vous que cet objectif soit si difficile à atteindre et que feront les écologistes pour y parvenir s'ils arrivent au pouvoir en 2022 ?
Alors, je pense que il est difficile à obtenir parce qu'il y a des intérêts qui s'y opposent, en fait. Aujourd'hui, on a une coalition de lobbies, de multinationales, d'entreprises, par exemple Total, qui ont des appuis au sein des gouvernements et dont l'intérêt n'est pas du tout que ça bouge. Dont l'intérêt est que de maintenir un statu quo. L'entreprise Total, aujourd'hui, n'a pas du tout intérêt à ce que les choses bougent trop vite sur la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, c'est pas... Et jusque-là, ces intérêts-là ont été le plus puissant que les intérêts du collectif dans le débat public. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à renverser, en fait. Il faut qu'on arrive collectivement, et là, on a une élection présidentielle qui arrive, donc c'est l'occasion pour construire cette immense force collective qui va nous permettre de prendre le pouvoir et de réellement amener des changements. Et ce qui est un peu sidérant, c'est en fait cette transition, cette transformation très très profonde de la société, elle est dans l'intérêt de tous, en fait. Et ce qui est affligeant, c'est à quel point une minorité très active, une minorité très puissante, arrive à bloquer à ce point cette transformation, alors qu'on arrive là clairement au pied du mur.
Alors certains Français se disent que l'écologie est coûteuse sur le court et le moyen terme. La presse évoque ces Français plus préoccupés par leur fin de mois que par la fin du monde. C'est une formule, mais comment rassurer ces personnes qui craignent que le prix à payer pour la transition écologique soit trop lourd à payer pour eux ?
Alors, je pense que déjà, le discours qui dit l'écologie serait trop coûteuse, c'est d'abord n'avoir rien compris en fait à ce qu'est le projet écologiste. Et c'est des discours qu'on entend aussi beaucoup dans la bouche des forces politiques qui justement veulent bloquer les leviers de transformation. Donc ce qu'il faut absolument dire, c'est que c'est plutôt l'absence de politique écologiste qui va être coûteuse, mais pour tout le monde. Et on le voit déjà. On a vu cet été les inondations, les catastrophes climatiques. On voit aujourd'hui, avec cette crise sur la question de l'énergie, à quel point l'inaction dans ce domaine-là est aussi très 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 directement coûteuse. Donc, et la transformation écologique, pour le coup, elle va être tout le monde y gagne, et on n'y gagne pas strictement en termes de pouvoir d'achat, etc. Parce que la crise qu'on traverse, elle n'est pas seulement une question de combien j'ai à la fin du mois, en fait. Et cette question-là, elle est primordiale. Mais on se rend bien compte que ce qui nous arrive collectivement, c'est aussi une crise du sens du vivre ensemble. C'est vraiment une crise qui est sur quelle vie on a envie d'avoir. Et en fait, on se rend bien compte aussi à quel point la société de consommation dans laquelle on est, elle est aussi un peu vide de sens. Et il y a eu beaucoup de ces questions-là qui sont arrivées pendant le confinement, etc., où on a voulu remettre au centre du débat la question du sens, justement, mais c'est celle-là qu'il faut repartir. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'écologie, tout le monde va gagner en termes non seulement de pouvoir d'achat, mais de pouvoir de vivre et de qualité de vie. Parce que c'est la seule manière, en fait, d'arriver à préserver un environnement dans lequel on va pas attraper des maladies respiratoires à cause de la pollution de l'air. La pollution de l'air, aujourd'hui, c'est 67 000 morts prématurées. Enfin, c'est immense. Je pense qu'on ne parle pas aussi assez des désastres que provoque l'absence d'écologie politique, l'absence d'écologie au pouvoir. Donc si on regardait l'ensemble des coûts-bénéfices, très 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 largement, on gagne tous collectivement à aller vers cette transition écologique.
La France est confrontée à un manque criant de logements. Comment concilier le logement et le refus des écologistes d'artificialiser les sols ?
Alors, aujourd'hui, on est effectivement face à une crise du logement et en particulier une crise du logement social et très social. On en manque de manière criante. La première chose à dire, c'est que il y a déjà un immense chantier à réaliser en termes de rénovation du bâti existant. Donc en fait, il y a déjà une manne immense de logements qui peuvent être remis aux normes et remis sur le marché par des politiques de rénovation. La filière de la construction, il faut l'accompagner dans sa transformation en fait, parce que faire de la construction écologique, c'est aussi une question de quel bois on utilise, quel matériau on utilise, est-ce qu'on fait des constructions légères qui permettent en fait de ne pas artificialiser les sols. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et la question, c'est comment pour chaque projet territorial, on arrive à trouver un équilibre entre les deux. Donc Yannick Jadot, il y a deux jours, il me semble, était présent au sommet de la construction de la Fédération française de bâtiments et présenté un projet d'investissement de 10 milliards par an à la fois sur la rénovation et sur la construction. Donc le secteur du bâtiment va devoir pleinement prendre sa part dans cette question de la transformation écologique et ça ne se traduit pas par une artificialisation à outrance du territoire, mais on se rend bien compte à quel point sur certaines situations, face à une pénurie de logements sociaux et très sociaux notamment, il y aura besoin d'aller vers la construction, mais en changeant la forme, en changeant les matériaux, les techniques de construction. Donc il y a aussi une réflexion sur l'innovation dans le secteur du bâtiment à apporter.
Merci Claire Lejeune. Je rappelle que vous êtes ancienne co-secrétaire fédérale des jeunes écologistes et membre d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.